Session sur la personne par le père Philippe, le 10 juillet 1989, à Saint-Jodard.
Que le soir, ce sera plus un aspect théologique. Alors, j'explique d'abord un tout petit peu qu'est-ce que ça représente, ce point de vue théologique, et je regarderai d'une façon spéciale ce soir, Saint Thomas, sur ce problème très important de la personne. Alors, qu'est-ce que c'est que la théologie? La théologie, c'est le croyant qui adhère à la parole de Dieu, qui adhère à l'enseignement d'Église, les conciles, les précisions dogmatiques, et puis l'enseignement actuel du Saint-Père. Je prends la foi chrétienne. Le croyant, puisqu'il y a des théologiens dans l'islam, il ne faut pas l'oublier. Alors là, c'est la foi dans le Coran. C'est le croyant qui se sert de son intelligence humaine, purifiée par la recherche de la vérité, donc la philosophie, et qui met cette philosophie au service de la parole de Dieu, pour expliciter tout le sens de la parole de Dieu. Le théologien n'explique pas le mystère, c'est bien évident. Le théologien essaie de montrer toute la richesse du mystère, toute la plénitude du mystère et de la parole de Dieu. Et saint Thomas précise que le théologien ne dit pas ce qu'est le mystère, ce qu'est Dieu, mais comment nous pouvons nous approcher de ce mystère et comment, c'est le quo modo, comment le mystère dépasse toutes nos connaissances. Et c'est pour ça que saint Thomas dira à propos de Dieu que le théologien dit plus le quo modo non sit que le quo modo sit. Je le dis en français, le théologien cherche plus à dire comment Dieu n'est pas que comment il est. C'est très beau. Autrement dit, la théologie, quand il s'agit du mystère de Dieu, est avant tout une théologie négative. Je montre tout ce qui n'est pas le mystère de Dieu pour manifester la transcendance du mystère de Dieu. Je me sers de la négation pour manifester l'aspect positif. Oui. D'une façon générale, c'est le propre de la négation. Dans ma connaissance, j'affirme et je nie. Affirmation et négation. Les deux formes de mon jugement. Et si je prends le jugement le plus simple, le jugement d'existence, ceci est. Ceci n'est pas. L'être, le non-être. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Hein. Vous savez, ça au plan philosophique, c'est très intéressant à bien réfléchir là-dessus. C'est qu'on peut dire que toute la philosophie ancienne, je prends des premiers Grecs, 7 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à le 14e siècle, pour notre philosophie occidentale, on considère toujours que l'affirmation est première et la négation est seconde. Je dis, j'affirme, je négation, c'est mieux. La négation et l'affirmation. C'est le bon sens. Et le langage le montre bien. Ceci est plus simple que ceci n'est pas. Hein? Quand vous dites ceci n'est pas, vous ajoutez à ceci est la négation. Et donc ça indique bien, comme si, pas plus, ça indique bien que la négation est seconde. Et si vous réfléchissez au point de vue critique sur ce que représente cette affirmation « ceci est », vous rejoignez le réel. Quand vous dites « ceci n'est pas », vous vous renfermez sur vous. Vous ne dites rien du réel quand vous dites « ceci n'est pas ». C'est la négation. La négation n'a donc rien d'objectif. Elle ne comprend rien d'objectif. C'est uniquement mon intelligence qui est capable de former la négation. C'est pour ça qu'on dira en philosophie que c'est un être de raison. C'est très curieux. La négation est un être de raison. C'est moi qui fais la négation. La négation n'est pas dans le réel. Dans le réel, il y a c'est ce que j'affirme. Mais la négation, c'est mon intelligence qui éprouve le besoin de nier. C'est très curieux. C'est très, très curieux. C'est... Oui, j'ai besoin de faire un cadre. C'est... Il y a la réalité, puis tout ce qui est autour. Je suis un cadre. Et ce cadre, je commence par nier. Quand je dis « ceci est l'être et le non-être, ben, il n'existe pas. C'est moi qui crée le non-être. Vous l'avez déjà vu, le non-être? C'est un spectre. Jamais vu le non-être. Pourquoi éprouvons-nous le besoin de dire non-être? Et ça a été très vite, ça. Très, très vite. Hein. C'est dans les présocratiques, c'est Parménide et même Héraclite. Tout de suite, dès que la philosophie a existé, on a vu affirmation et négation. Et avant la philosophie, quand vous allez au marché, hein, vous voyez des carottes, vous demandez le prix, puis vous dites oui, affirmation, un peu trop cher, vous dites ah non, mais vous vous écartez. Donc dans l'ordre pratique, négation et affirmation, quand vous affirmez, vous donnez la main. Ah oui, on est d'accord. Quand vous niez, je ne dis pas que vous tournez le dos, mais vous prenez vos distances. Et Aristote fait le parallélisme entre affirmer et nier, et au point de vue affectif, adhérer, se porter vers, et la fuite. On peut aimer, on peut fuir. On peut embrasser quelqu'un, affirmation, et on peut fuir. Je ne dis pas cracher dessus, mais tourner le dos. Ça, affectivement, ça peut aller plus loin que la négation. N'est-ce pas? Tandis que là, affirmation. Pourquoi éprouvons-nous le besoin de nier? C'est quand même très important, ça. Pourquoi éprouvons-nous le besoin de nier? Les psychologues précisent l'âge de l'affirmation, l'âge de la négation. Un tout petit gosse commence par affirmer. Il aime, il se précipite. Puis c'est peut-être cassé un peu le nez. Seconde période, il commence à nier. Bon, précipite. bonjour. Oh, maman, il s'en fout de toute vitesse. Alors la mère dit, ne vous inquiétez pas, c'est avec tout le monde qui fait ça. Non, c'est pas vous, c'est tout le monde qui fait ça. L'âge de l'abnégation. Pourquoi éprouvons-nous le besoin de nier? C'est très très curieux ça. Ça c'est une question philosophique. Je vous poserai la question dans votre petite session. C'est une très belle question ça. Pourquoi éprouver le besoin de nier? Est-ce que Dieu nie? Ou est-ce que Dieu affirme tout le temps? Est-ce que nier, ce n'est pas un besoin de défense? On se défend. On nie. On a peur. On nie. Et est-ce que nier n'est pas aussi le besoin de mettre en lumière l'affirmation de temps en temps? Oui. En peinture, l'ombre et la lumière. On se sert de l'ombre pour mettre en lumière. C'est très curieux, vous avez tout le temps l'affirmation et la négation. Le pôle positif et le pôle négatif. C'est quelque chose de très, très fondamental dans notre vie intellectuelle. Bien, les anciens, donc, depuis que la philosophie existe, Hésiode, au 14e siècle après Jésus-Christ, Hésiode, 7e siècle avant Jésus-Christ, et 14e siècle après Jésus-Christ. Donc, tout notre Occident, Hésiode, c'est le point de départ de la philosophie grecque, tout notre Occident a affirmé le primat de l'affirmation sur la négation. Je crois que la modernité, c'est une question que je cherche depuis très longtemps. Qu'est-ce que c'est que la modernité au plan philosophique? Bien, c'est l'inversion. C'est de dire que la négation est première et que l'affirmation est seconde. Faites des expériences avec les jeunes. Je l'ai fait plusieurs fois. On le fait de diverses manières. Hein. Amour et haine. On dit de façon classique que toute haine présuppose un amour. Ordinairement, vous haïssez ce que vous avez aimé. C'est constamment comme ça. C'est encore une forme d'amour. La haine. Pas très agréable. Hein. Évitez-la. C'est une forme d'amour. Je t'aime tellement que j'ai une haine farouche contre toi. J'ai envie de te tuer. La haine noire. On a envie de tuer. Bon, on dit que l'amour est premier, que la haine est seconde. Eh bien, constamment aujourd'hui, quand vous interrogez la haine, ils disent non, c'est la haine qui est première. La négation est première. Et je crois depuis Occam. C'est très très curieux. Je dis je crois, parce que c'est pas si commode, période de transition. Mais c'est sûr qu'après Sartre, la négation est première. Dans tout l'hégélianisme, la négation est première. Dans tout idéalisme, la négation est première. On comprend très bien. La négation exalte le sujet. Je nie. Quand je dis je nie, je pose un acte qui me relie à rien d'objectif et qui m'exalte. Je suis capable de nier. Pourquoi le gosse aime-t-il de nier? Pour montrer qu'il est capable de nier? Non. Première fois, il n'obéit pas. Non. Il affirme. Hein. Il affirme beaucoup plus la négation que l'affirmation. Il dit oui, tout doux. Tandis que le non n'est jamais doux chez un gosse. Jamais doux. Et pas seulement chez les gosses. Hein. Le non n'est jamais doux. Fortitaire. Il a vous assommé quelqu'un. Tandis qu'on dit oui, oui, peut-être bien, oui, je crois. Le non est tranchant. très curieux. Et alors, ça a d'immenses conséquences, voyez, parce qu'on est là, tout à fait à l'origine de la structure de ma connaissance. La connaissance est affirmative, elle est négative. Affirmative, elle se relie au réel. La négation, je m'écarte et je me renferme sur moi. C'est pour ça que dans la négation, il y a un primat de la subjectivité transcendantale. Et ce primat de la négation me permet d'affirmer la subjectivité transcendantale. C'est quand même quelque chose. Je suis capable de nier. Donc je suis supérieur à tout ce que je vois. Alors, en théologie, la négation va être première. Vous commencez à comprendre pourquoi c'est un théologien qui va mettre la négation première en philosophie. C'est parce qu'il a été théologien et qu'il est un mauvais et que devenant philosophe sans réfléchir sur cela, il va mettre la négation en premier lieu. C'est né de la théologie de mettre le primat de la négation sur l'affirmation. C'est quand même très étonnant, ça. Pour le théologien, ce n'est pas gênant de mettre la négation première, puisque avant, il y a la foi. Et la foi est affirmative. Je crois. Quand vous dites « je crois », vous posez un acte positif. Vous ne dites pas « je ne crois pas ». Je crois. Le théologien croit. Il affirme. Alors devant cette affirmation, il peut tout de suite mettre en second lieu la négation. Parce que la foi remplace cette affirmation. Éminemment. Donc en théologie, la négation peut être première pour manifester la transcendance du mystère. Comme le non-être peut manifester la transcendance de ce qui est de l'être. La négation, je peux m'en servir pour manifester la transcendance de ce que j'affirme. Et le théologien se sert de la négation pour ça. Si je laïcise ma théologie, c'est-à-dire si je ne regarde plus l'affirmation de la foi, je mets entre parenthèses, la laïcisation de la théologie fait que la négation devient première. Et l'affirmation vient après. Je dis ça, c'est très important. Ça fait comprendre comment la théologie, qui est une chose très belle, a été source d'une désagrégation de la pensée. Occasionnellement, ne dites pas que c'est à cause de la théologie que la pensée s'est désagrégée. Non, c'est pas à cause de la théologie, c'est à cause d'un croyant qui n'a plus été croyant. La perte de la foi engendre un primat de la négation. Vous voyez, c'est pas commun du tout hein, pour notre Occident et pour notre Europe. Ce n'est pas commun du tout d'avoir comme grand-père des théologiens. Toute la culture européenne a été chrétienne. Alors voyez ça, quelqu'un qui vit une idéologie athée aujourd'hui, faire comprendre que son grand-père était un théologien. Pas drôle d'avoir comme grand-père un théologien si je ne crois plus. Ah, si je crois, c'est très bien. On est de la même famille, ça va. C'est pas étonnant que c'est si bien. Il y avait des théologiens, de grands théologiens. L'Europe s'est faite, au point de vue de la pensée, par des grands théologiens. L'université de Paris, l'université de Naples, c'était quand même au Moyen-Âge des grands théologiens qui ont lancé l'université. Faut pas l'oublier. L'universel n'a pas été créé par les grammairiens. Non. Elle a été fondée par des théologiens. Et le jour où elle se laïcise, alors qu'est-ce qui se passe? Primat de la négation. Corruption, optimi, pessima. La corruption de ce qu'il y a de meilleur, c'est le pire. Et je crois qu'on assiste à ça, vous voyez, on assiste à ça dans notre Europe. La corruption de ce lieu qui a été béni, où il y a eu un art si extraordinaire au Moyen-Âge, où il y a eu une telle pensée théologique, la corruption, la sécularisation de la théologie amène à un primat de la négation. Réfléchissez beaucoup à ça, parce que ça vous éclairera sur des quantités de choses de notre monde d'aujourd'hui. Ça nous aide à comprendre. Eh bien donc, le théologien met au service de sa foi et de la parole de Dieu son intelligence. Et s'il est intelligent, son intelligence qualifiée par un habitus philosophique. Je ne peux pas faire de théologie si je n'ai pas de philosophie. Je sais bien qu'aujourd'hui, on n'acceptera plus tout à fait cette formule. Mais je la crois vraie. C'est pour ça que je vous l'ai dit. La philosophie est anchilla. Elle est servante dans la théologie. Elle est servante. C'est la foi qui domine. Mais on se sert de la philosophie pour expliciter certaines choses. C'est de cette manière-là que le théologien s'est trouvé devant certains problèmes très délicats. Expliquer, je ne dis pas expliquer dans le sens supprimer le mystère, mais nous approcher de ce mystère, de ces deux grands mystères. La Trinité. Trois personnes dans une res réalité. Dieu est simple, absolument simple. Dieu est trine. C'est le mystère de la très sainte Trinité. Il s'est précisé de cette manière-là au point de vue théologique. Dieu est absolument simple. Il est un. Une nature, un être, premier, trois personnes. Est-ce que c'est pas contradictoire? Non. Et le théologien doit montrer que c'est pas contradictoire. Vous voyez donc, il est tout de suite en face. Qu'est-ce que c'est que la personne? Premier, deuxième problème, deuxième mystère devant lequel se trouve le mystère du Christ. Deux natures divines et humaines en une personne, le Verbe. Vous avez l'inverse. Mais ces mystères secouent hein, le théologien. Est-ce que c'est contradictoire? Le théologien veut montrer qu'il n'y a pas de contradiction dans ce qui est affirmé dans l'Écriture. C'est un des aspects de la théologie. Et donc, il est obligé de réfléchir sur les rapports entre nature et personne dans le mystère de la Très Sainte Trinité. Montrer que ce n'est pas contradictoire de dire que Dieu est absolument simple et qu'il y a trois personnes. Normalement, quand on est trois, on est plus simple. Hein ? Demandez aux psychologues. La situation en triangle, les psychologues savent très bien, c'est une situation toujours compliquée. Quand on est deux, oh ça va très bien, on s'arrange toujours. Mais il y en a un troisième qui est là, ça va pas du tout. Et c'est vrai, psychologiquement parlant, oui, psychologiquement parlant, la situation triangulaire est trois. Ça ne va pas. C'est la complexité qui commence. C'est pour ça qu'on dit que le chiffre 3, c'est le chiffre communautaire. Pas de communauté sans 3. Deux amis, ce n'est pas une communauté. Vous n'allez pas montrer comme modèle d'une communauté. Regardez comme ils s'aiment. Jamais d'histoire. C'est tout le temps. Mais oui, ils sont deux. Mettez un troisième, vous verrez. Non, ça ne va plus le troisième. Et dans le mystère, on dit qu'ils sont trois et un. Alors c'est absurde. Hein. Entendez un musulman farouche, hein, parce qu'il y en a qui disent que le Coran ne s'oppose pas à cela. J'en ai entendu me dire ça. Ce que je crois être vrai, du reste. Mais si je prends un peu matériellement les affirmations, le monothéisme est contraire à la révélation de la Très Sainte Trinité. Et vous voyez certains juifs qui maintiennent cette position farouchement. C'est évident que ce n'est pas évident. Une seule nature et trois personnes. Ce n'est pas évident du tout. Et le théologien doit, lui, montrer qu'il n'y a pas de contradiction. Et donc, il doit arriver à affiner, hein, je dis bien, affiner ce qu'est la personne. Et quand il s'agit du Christ, autre chose. Le théologien se trouve en face du problème de la création. Je dis ça pour que vous compreniez que le problème de la personne est foncier en théologie. La création. Dieu crée, l'acte créateur de Dieu, Dieu crée des réalités subsistantes. Alors, est-ce que Dieu crée la personne humaine ? Problème très grave sur lequel on reviendra. Où est-ce qu'il crée l'âme humaine ? L'acte créateur de Dieu porte-t-il sur l'âme ou la personne ? On verra que ce n'est pas la même chose. Et le théologien devra préciser ce qu'est l'âme et ce qu'est la personne. Le théologien se trouve en face de la morale. L'éthique. Est-ce que l'éthique provient de la personne ou de la nature humaine ? Problème très passionnant d'aujourd'hui. C'est vrai, l'éthique est-elle ? Repose-t-elle sur la personne ou repose-t-elle sur la nature humaine ? Et on oppose facilement une éthique personnaliste et une éthique qui se fonde sur la nature. C'est la grande querelle entre les théologiens de théologie morale aujourd'hui. Mais théologie de la personne, on se ramène à la conscience de chacun. morale de la nature, ah, il y a des lois objectives. Morale de la situation ou morale objective. Morale de la situation, c'est la personne. C'est évident que on ne voit pas tous de la même façon un objet sur la garde du sixième étage ou du rez-de-chaussée. C'est un très gros objet, ça n'a pas beaucoup de différence. Mais c'est un tout petit objet, un petit animal. Alors, vous voyez tout de suite, au point de vue moral, autre chose est de regarder telle personne qui a tel affinement, qui a tel amour, ou tel autre, qui est dans un état d'indigence absolue. Morale de la situation, morale personnelle, ou morale objective. Donc le problème de la personne et de la nature, c'est un fait. C'est que saint Thomas, je prends saint Thomas, pour regarder avant saint Thomas, que saint Thomas se heurte, je dis se heurte, c'est-à-dire saint Thomas va essayer de développer ce que c'est que la personne humaine. Qu'est-ce que c'est que la personne humaine pour saint Thomas? Alors je vous prends quelques textes où saint Thomas parle de cela. Dans l'article, donc, il faut donc, dans la définition de la personne, ça c'est tout à fait le jeune saint Thomas. Le jeune saint Thomas, c'est le saint Thomas du commentaire des sentences. Et dans le commentaire des sentences, on voit très bien que saint Thomas essaie de préciser la définition de la personne. Et comme il est encore jeune, il s'appuie sur la fameuse définition de Boès. Boès est un latin. Il n'a pas toujours la subtilité des Grecs. Mais il s'appuie sur la définition de Boès. Boès a écrit un livre sur la consolation du philosophe. Et la définition de Boès est celle-ci. La personne est une substance individuelle d'une nature rationnelle. Ça vaut la peine de le voir, si, au point de vue historique, c'est une chose qu'on doit savoir. Qu'est-ce que c'est que la personne ? Chez les latins, chez saint Thomas, les latins du XIIe et XIIIe siècle. Donc la définition de Boès. C'est pas un père de l'Église, hein, c'est un philosophe qui a traduit énormément de grec en latin. La logique d'Aristote a été introduite chez les latins par Boès. Et Boès définit la personne. La personne est une substance individuelle d'une nature rationnelle. Et il y a pas mal de choses qui ne sont pas si commodes que ça à comprendre. Substance individuelle, nature rationnelle. Hein? C'est pas si commode. Saint Thomas tourne autour. Oh, c'est très amusant du reste de voir ça. Très très curieux. Si je vous lisais tout ça, vous amuseriez beaucoup. Saint Thomas explique que dans la définition de la personne sont impliqués trois éléments. Donc ça, c'est le jeune saint Thomas. Hein. Il a 25 ans. intelligent. Trois éléments. Premièrement, le genre. D'une façon classique, vous savez bien, toute définition logique implique genre et différents spécifiques. Genre animal, différents spécifiques rationnels. Pour définir l'homme, la définition classique de l'homme, animal raisonnable, c'est une définition, puisqu'on est en logique. C'est pas une définition philosophique, c'est une définition logique. Je définis genre animal, différent spécifique. Le genre animal, différent spécifique, rationnel. Qu'est-ce que c'est que l'homme, un animal raisonnable? Du moins, par moment. Oui, parce que quand il dort, est-il encore un homme? Puisqu'il dort comme un animal. Il n'a plus conscience de ce qu'il est. Et il fait que fois des bêtises. Animal raisonnable, quand il est éveillé. Quand il mange, il mange quelquefois comme un animal. Oui. Animal raisonnable. Donc tout ce qui est raisonnable est humain. Mais quand c'est uniquement animal, non. Genre est différent spécifique. Alors vous voyez, comment on va préciser cette définition? Saint Thomas dit la définition de la personne. La première définition de la personne, celle de Boès. Saint Thomas s'appuie sur Boès. Donc c'est classique. Au Moyen-Âge, c'est classique. Tout le monde savait ça par cœur. Mais on est moins instruit qu'au Moyen-Âge, vous voyez. C'est moins bien, ça. Au Moyen-Âge, savait ça par cœur. Donc, le genre de la réalité qui est signifié par le nom de personne lorsqu'on dit substance. Substance et le genre. Analogue à l'animal, pour homme. La différence spécifique par laquelle le genre est contracté à une nature déterminée, en laquelle se trouve la réalité qui est personne. Ce qui est exprimé ici par nature rationnelle. Très curieux. Le point de vue sous lequel le nom de personne signifie la réalité, c'est individuel. Troisième point, oui. Genre, différent spécifique, donc 1, 2, 3. Puis, le point de vue sous lequel on indique justement que la personne signifie une réalité. La personne, ce n'est pas un être de raison. Donc, c'est une réalité existante. Réalité existante. Pour montrer que c'est une réalité existante, on dit individuelle, puisque seuls les individus existent. Vous n'avez jamais vu l'universel. Alors, pour montrer que la personne est une réalité existante, on retrouve dans Boès le point de vue individuel. Substance individuelle d'une nature rationnelle. Voilà la première explication de Saint Thomas. Donc il justifie cela. Vous avez donc ceci, pour ceux qui s'intéressent à l'aspect premier livre des sentences. Je m'excuse, hein, mais je donne ça quand même pour avoir l'air d'être savant. Premier livre des sentences. Distinction 25. Vous n'irez pas le voir. Question 1. article 1. Oui, c'est bien référence. Hein. Et on va même encore un peu plus loin. Solution 1. Voilà. Vous avez donc livre des sentences, premier livre des sentences, distinction 25, question 1, article 1, solution 1. Avec ça, vous retrouvez tout de suite. Je vous amènerai, si vous voulez, les sentences de Saint-Thomas, vous pourrez trouver, vérifier que c'est bien ça. Alors, dans la somme, donc dans les sentences, Saint-Thomas s'appuie sur Boès. Il n'invente rien. Vous voyez la docilité du jeune Saint-Thomas. Il se met dans la tradition. Le maître des sentences, c'est celui qui a mis les sentences. Qui a inventé les sentences. 100 ans avant saint Thomas, s'appuie sur Boès. Saint Thomas continue de s'appuyer sur Boès. Vous voyez, il tire un peu hein, les cheveux. Tirer un peu, c'est tirer un peu par les cheveux, ça, ce genre de définition. Substance individuelle d'une nature rationnelle. Substance individuelle d'une nature rationnelle. Voilà ce que c'est que la personne. Et saint Thomas justifie ça par genre différent spécifique et le point de vue de la réalité existante. Ça vient par-dessus. Ça, on comprend très bien. Et ici, c'est tout à fait différent. Jugement d'existence. Donc, saint Thomas sent bien qu'une telle définition de Boès n'est pas si commode que ça à expliquer. Dans la somme, saint Thomas justifie ainsi la définition de Boès. Vous allez voir, d'une façon toute différente. C'est très amusant. Si la distinction particulière universelle se retrouve dans tous les genres, l'individu, cependant, se trouve dans le genre de la substance d'une manière très particulière. Car la substance est individuée par elle-même. Tandis que les accidents le sont par le sujet, qui est la substance. C'est pourquoi les individus de la substance ont un nom spécial. Ils sont dits hypostases, ou substance première, le sujet existant capable de recevoir les accidents. Saint Thomas précise encore, l'individu est ce qui est en soi indistinct, et distinct des autres, donc incommunicable. Oui, c'est tout à fait autre chose. On n'est plus en logique. On est devant une précision d'ordre philosophique qu'on verra, puisqu'on essaiera de comprendre un peu, pour montrer et justifier cette définition substance individuelle. La substance, dans le langage de saint Thomas, c'est ce qu'il y a de primordial dans l'homme. On distingue substance et accident. Accident, c'est la qualité, c'est la quantité, c'est ce qui vient s'ajouter. La substance, au contraire, c'est quelque chose de substantiel, hein, donc de primordial et de fondamental. Et donc on précise tout de suite qu'est-ce que c'est que la personne. La personne, c'est la réalité dans ce qu'elle a de tout à fait fondamental. Et la substance a ce privilège sur les accidents, c'est que la substance est capable d'être individuée par elle-même. Tandis qu'au contraire, l'accident n'est jamais individué par lui-même. Et c'est pour ça qu'on appelle la substance individuelle l'hypostase. Alors ça, c'est un mot grec, l'hypostasis. C'est très amusant, le mot hypostase. Ça vous fait rire 2 minutes pour les étymologies. Hypostasis, en grec. Hypostasis. 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 Parce que là, on transpose hypostase, hypostasis. Ce qui se tient par en dessous. Ce qui se tient par en dessous. Ce qui est fondamental, ce qui est radical, hypostasis. Et donc, les autres choses viennent s'ajouter. Le mot hypostase, chez Plotin, exprimera les trois premières personnes. Hypostasis. La trinité plotinienne. L'un, l'intelligence, l'âme. Hypostase. Chez Aristote, le mot hypostase existe. Et vous savez ce que dit Aristote ? Il était fils de médecin. Hypostase pour Aristote. Parce qu'il emploie le mot. C'est le dépôt de l'urine. C'est extraordinaire. Ce mot, vous voyez, mais c'est, je crois que c'est unique. C'est pour ça que je le cite. Parce qu'au point de vue étymologique, je trouve ça admirable. Le mot hypostase dans la philosophie d'Aristote, c'est le dépôt. Il aurait pu prendre le dépôt du vin. Le dépôt de la soupe. Il le prend comme médecin, on comprend très bien le dépôt de l'urine. Qu'est-ce qui va ? Il faut laisser, il ne faut pas secouer. Alors il y a un dépôt. Hypostasis. Oui. Alors hypostasis désigne tout simplement ça, le dépôt. Et chez les Grecs du 2e siècle après Jésus-Christ, hypostasis exprime le mot le plus noble qui soit. C'est extraordinaire. Ça, c'est faut retenir ça, parce que ça montre que l'étymologie, hein, c'est amusant, mais on ne peut pas se baser dessus. Mais si vous prenez hypostase, ah oui, le dépôt de l'urine, mais c'est pas ça du tout, c'est la personne. Et la personne la plus noble qui soit, puisque c'est l'un. L'intelligence, l'âme, les trois hypostases de Plotin, qui sont divines. L'un est divin, c'est Zeus. Le nous, Apollon, divin. Et l'âme est divine. L'âme du monde, elle est divine. Donc, c'est devenu quelque chose de tout à fait grand et noble. Super noble, hypostase, ce qui se tient par soi-même. C'est pas le dépôt, c'est ce qui se tient par soi-même. Ce qui ne s'appuie sur rien. Ce qui a, si vous voulez, une autonomie dans l'ordre de l'être, c'est la substance. Et la substance individuelle est hypostase. Et donc la personne, c'est l'hypostase d'une nature rationnelle. Donc c'est plus du tout une définition par genre et différence spécifique, c'est une précision de la philosophie première, substance individuelle d'une nature rationnelle. Ce qui veut dire que la personne exprime quelque chose de tout à fait singulier, elle existe dans sa singularité. Et la personne aussi implique une nature rationnelle, l'esprit. Et le progrès des sentences où saint Thomas est dans la tradition où la logique jouer un rôle capital. On voit ça chez Albert le Grand. Et on traduisait à travers la logique. Et au contraire, dans la Somme, où il a commenté la métaphysique d'Aristote entre deux. et en commentant la métaphysique d'Aristote, il arrive à donner un sens nouveau à cette définition de Boès. L'individu, c'est du reste très beau, l'individu est ce qui est en soi individu, indistinct, et ce qui est distinct des autres, donc incommunicable. L'individu est incommunicable et ineffable. Vous ne pouvez pas le définir. Il est unique. Un individu est unique. Un homme, une personne, c'est un individu. De plus, le particulier et l'individu, dans les substances rationnelles, qui ont un dominium, donc une capacité de détermination sur leur acte, elles ne sont pas seulement mues, mais agissent par elles-mêmes, se réalisent selon un mode plus spécial et plus parfait. Les actions se réalisent toujours d'une manière singulière. C'est pourquoi, parmi les substances, seules les substances singulières de nature rationnelle portent un nom spécial. On les appelle personnes. Ah, là, un élément nouveau. Qu'est-ce que c'est que la personne ? La personne, c'est celle qui est domina sui. Celle qui est capable de dominer sur ses actes. C'est très beau, ça. C'est un point de vue plus moral. Il faut donc, dans la définition de la personne en commun, in communi, poser la substance individuelle qui signifie le singulier dans le genre de la substance, y ajouter de nature rationnelle pour signifier le singulier des substances rationnelles. La personne, dans la nature rationnelle, signifie ce qui est distinct dans cette nature. Certes, le singulier ne peut être défini, il est ineffable, mais on peut préciser la raison commune de la singularité. Voilà, première précision de la substance dans la somme. Tatama précisera donc comment personne signifie le genre des substances rationnelles, ce que la réalité de la nature substantia ou hypostasis, signifié dans le genre des substances. La personne est donc bien une réalité naturelle subsistant hypostase, mais des substances rationnelles. Donc, c'est toujours cette grande idée de saint Thomas. La personne, c'est quelque chose de premier, de fondamental dans l'ordre de l'être, à tel point qu'elle a une autonomie dans l'ordre de l'être. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut tout de suite préciser que cette autonomie se réalise à travers une nature rationnelle, c'est-à-dire l'esprit. Le problème le plus difficile, ce sera de montrer qu'en Dieu, on est en théologie, personne et individu ne font qu'un. Pas de distinction en Dieu entre personne et individu. La personne de Dieu est donc sa nature. Mais elle diffère selon la manière de parler. Le modus significandi. La personne signifie par mode de subsistant. Dans tandis que le mot nature n'exprime pas cela. Vous voyez, au niveau de notre manière de parler, ce que saint Thomas appelle le modus significandi, notre manière de parler est différente pour exprimer en Dieu nature et personne. Mais dans la réalité, il n'y a pas de distinction entre nature et personne. Parce qu'en Dieu, sa substance est singulière. Et elle est personnelle. Elle est sa propre substance. Il faut montrer maintenant comment en Dieu, substance individuelle ne fait qu'un, ainsi que nature. Donc en Dieu, on est en présence d'une personne absolument simple, qui est sa propre substance, qui est sa propre nature. Alors comment parler de trois personnes dans la très sainte Trinité? Puisque en Dieu, il n'y a pas de division. On ne peut pas diviser. Il y a une unité absolue. Comment pouvons-nous parler de trois personnes? Alors là, c'est un effort extraordinaire du théologien. Je vais simplement l'énoncer. J'y reviendrai peut-être demain, si ce n'est pas trop difficile. Comment préciser qu'en Dieu, il y a la personne du Père, il y a la personne du Fils, il y a la personne de l'Esprit-Saint. Dans la simplicité absolue de la subsistance divine, Dieu subsiste dans l'unité. Réalité divine qui est absolument simple. Comment introduire en Dieu, non pas une division, puisqu'il est simple, il est un, donc pas de division, une distinction réelle, personnelle. Le Père est tout entier relatif à son Fils. Et le Fils est tout entier relatif au Père. Ça, l'Écriture le dit. L'Écriture le montre. Et l'Esprit Saint est tout entier relatif au Père et tout entier relatif au Fils. Il est un dans l'unité avec le Père et le Fils. Il ne divise pas le mystère de Dieu. Mais il y a une distinction. Alors, on va se servir de la relation pour exprimer ce qu'est le Père, ce qu'est le Fils, ce qu'est l'Esprit Saint. La relation. La relation, au point de vue philosophique, n'est pas la substance. Mais la relation peut ne rien ajouter et uniquement exprimer la distinction. Mais ça, c'est très subtil. La relation, prenez dans l'amitié. Deux amis sont relatifs l'un à l'autre. Pierre et Jacques. Ils sont relatifs. Toute relation implique à la fois d'être relatif. Ad, on dira vers. L'ami est relatif à son ami. Et en même temps, la relation implique un fondement. Comment sont-ils relatifs? Par un fondement, une similitude ou une complémentarité qui explique d'être relatif l'un par rapport à l'autre. Quel est le caractère différent des amitiés? C'est par le fondement. Il y a des amitiés différentes. Parce qu'il y a une mise en commun qui est différente. Mais la relation comme telle est purement le regard. L'ami est tourné vers l'ami. L'ami est relatif à l'ami. Il est hard. Tout entier tourné, le regard. Tourné vers. C'est ça être relatif, tourné vers. Alors on dira en Dieu, on va comprendre que la réalité profonde du Père et du Fils est une. Et cependant, la personne du Père est distincte de celle du Fils. Elle est tout entière tournée vers le Fils. Et le Fils est tout entier tourné vers le Père. Et donc on va se servir de cette hâte tournée vers pour dire que la personne du Père, c'est une relation subsistante qui caractérise le Père comme source. Et le Fils, la relation subsistante de celui qui reçoit tout et qui est tout entier tourné vers le Père. Et la relation de l'Esprit Saint, c'est d'être relatif au Père. Vous voyez que là, on fait, je ne dis pas un tour de passe-passe, mais intellectuellement, hein, on se sert du relatif de l'âde qui exprime d'être tourné vers pour dire que le Fils et le Père sont tous les deux relatifs l'un par rapport à l'autre, dans une unité d'être. On reviendra là-dessus demain pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, au-delà de la conceptualisation, ce que ça représente au point de vue profond. Nous allons terminer cette journée par le...